Ça doit
Ah bah
aller.
super.
Ouais.
Ok.
Bah donc, alors, bonsoir à toutes et à tous. Et bah on va aborder effectivement un sujet, c'est toute une culture, hein, la culture indienne, c'est vaste. C'est une sorte de continent, hein. Faut bien comprendre que l'Inde, c'est assez énorme. Et si aujourd'hui, on va un peu plutôt balayer du côté de l'hindouisme, il faut savoir que ça représente quasiment 1 milliard d'individus. Un petit peu moins peut-être parce qu'il y a quand même des musulmans en Inde, quelques chrétiens, même quelques juifs, mais bon, la très grande majorité, bah, c'est des hindous. Et donc, c'est une religion quand même qui est fondamentale. Je veux dire, sur les cinq religions dont on dit les cinq principales religions, hein, comme on a l'habitude de le dire, il y a des disparités assez énormes parce qu'en fait, bon, le christianisme représente beaucoup de monde sur la planète, l'islam aussi. Le judaïsme, par contre, c'est une toute petite religion du point de vue du nombre de gens, mais par contre, c'est une religion qui a une grosse importance culturelle, etc., et puis géopolitique, exactement comme vous le savez. Et l'hindouisme, c'est une énorme religion, mais qui est relativement silencieuse en dehors de l'Inde. Tout simplement parce que c'est pas une religion prosélyte, d'une manière générale, c'est très peu prosélyte. Il peut y avoir quelques mouvements ici et là qui sont prosélytes, mais c'est très rare. Et en fait, on a l'habitude de dire qu'on est hindou ou on n'est pas hindou. Hein? Donc, c'est clair que c'est par la naissance qu'on est hindou. Et parfois, ça m'arrive, mais évidemment, il faut faire attention à ce genre de comparaisons parce qu'elles ne sont pas exactes, hein, ce sont des comparaisons vraiment analogiques. Mais on pourrait dire pratiquement que l'hindouisme est au bouddhisme, ou plutôt le bouddhisme est à l'hindouisme, ce que le christianisme est au judaïsme. Hein? C'est-à-dire que finalement, les deux religions qui vont avoir une vocation universelle, ce sera le bouddhisme et puis le christianisme. Mais le judaïsme n'est pas prosélyte, ne cherche pas à se diffuser véritablement en dehors de la communauté juive. Et c'est pareil pour ce qui est de l'hindouisme. L'hindouisme, disons, se contente en quelque sorte de perpétuer son culte, etc., et ses différents représentants. Alors, l'hindouisme, c'est une religion qui est énorme et qui est multiple. Hein, c'est-à-dire que si on parle de religion, mais déjà, bon, et on pourrait discuter déjà pendant longtemps de savoir si le terme religion convient à des objets qui ne sont pas du tout dans l'orbe des trois religions abrahamiques, hein, qui, elles, effectivement, peuvent se reconnaître dans ce vocable de religion, encore qu'il a fallu qu'elles se l'approprient. Parce qu'à l'origine, le mot religion, comme vous le savez, c'est un mot romain et c'était donc la religion des Romains païens au départ, hein, qui était désignée par ce terme. Mais bon, disons que en général, quand on pense religion, on pense les trois religions abrahamiques. Là, ce n'est pas le terme. Le terme, c'est dharma. Hein. Dharma, ça veut dire grosso modo, et surtout particulièrement pour l'hindouisme, ça vient d'une racine DHR, dhar, qui veut dire en fait quelque chose qui tient les choses ensemble, qui leur donne une cohérence. Donc en fait, dharma, on pourrait dire la loi cosmique, mais c'est pas très très, c'est assez maladroit. C'est plutôt l'ordre des choses, la manière dont les choses sont établies dans la manifestation, hein, de l'univers. Et comment elles s'harmonisent plus ou moins entre elles. Voilà. C'est ça que veut dire le mot dharma. C'est-à-dire qu'en fait, et pour l'hindouisme, on le verra, ça va être une organisation de la société humaine selon l'ordre cosmique. C'est-à-dire c'est en quelque sorte une religion socio-cosmique. La façon dont les êtres humains seront répartis socialement, correspond, selon l'hindouisme, à une certaine structure, en quelque sorte, qui dépasse le monde même humain. Hein? Et donc, Et c'est un système assez immuable, effectivement, qui à la fois, évidemment, a d'énormes défauts, mais finalement, à bien y regarder, ce qu'on a appelé les castes, hein, comme on le verra, c'est une manière de répartir en fait un certain nombre de tâches dans la société humaine, un certain nombre de rôles, mais ce n'est pas si différent de ce que nous avons dans nos sociétés occidentales, où on peut reconnaître également des castes. Hein, même si elles ne disent pas leur nom, même si elles ne sont pas par la naissance, elles le sont quand même, plus ou moins. Hein. Donc, on ne va pas se cacher les choses. C'est une habitude indo-européenne, je dirais, de répartir en trois ou quatre groupes principaux, en quelque sorte, les différentes activités humaines et les fonctions sociales. Donc, ça doit nous dire quelque chose à ce niveau-là, parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on retrouve, par exemple, dans toutes les sociétés indo-européennes anciennes, et qui ne sont pas spécifiques à l'hindouisme au niveau de la répartition sociale. Mais on peut dire que d'emblée, ce système-là est donc critiquable, mais il a une grande solidité dans le sens où il a une stabilité, c'est le système social qui a été le plus stable au monde. Si on considère qu'il commence assez tôt, et je dirais qu'il commence, mais sans être établi ou codifié, peut-être 1000 ou 1500 ans avant Jésus-Christ, et puis il va se spécifier, disons, vers 400 ou 500 avant Jésus-Christ, et à partir de là, il est stable jusqu'à maintenant. Alors, bon, la stabilité ne veut pas dire que c'est le système idéal, hein, bien sûr. Mais c'est ça qui a permis à l'hindouisme, en fait, de perdurer jusqu'à maintenant, parce que quelque part, c'est une religion qui établit le système social. Par conséquent, à partir de là, quand les choses sont vraiment bien établies, il est difficile de les branler. Par exemple, quand l'islam a commencé à recouvrir l'Inde, ça ne s'est pas passé de la même manière pour le bouddhisme et pour l'hindouisme. Le bouddhisme, qui était trop concentré dans les grands monastères, en dehors de la société d'une certaine manière, a été blackboulé et très rapidement, hein, par disons les hordes qui venaient d'Afghanistan, hein, qui étaient donc des gens qui étaient assez agressifs, hein, et qui ont rasé en quelque sorte et détruit et tué tous les moines assez facilement. Et en l'espace de 50 ans à peu près, 50-60 ans, le bouddhisme a été quasiment éradiqué de l'Inde. Hein. Ça, c'est vers le 12e, 13e siècle. Par contre, l'hindouisme n'a pas été ébranlé dans ses structures. Et finalement, on s'aperçoit, bien sûr, qu'il y a eu des heurts violents, hein, entre les communautés hindoues et les communautés musulmanes, mais néanmoins, on remarque qu'à un moment donné, quand les choses se calment, les musulmans, finalement, s'adaptent au système hindou. Vous voyez? Donc, on voit quand même cette force. On pourrait presque parler d'une force d'inertie, mais une inertie qui a quand même sa force, vous voyez, qui continue quand même. Et puis, c'est une religion, on va le voir, qui est très évolutive, très plastique, qui prend des aspects très variés. Et d'ailleurs, pour les historiens des religions, c'est un casse-tête, parce qu'on ne peut pas la classer. On ne peut pas classer l'hindouisme. On ne peut pas dire que c'est un monothéisme, on ne peut pas dire que c'est un énothéisme, on ne peut pas dire que c'est un panthéisme, on ne peut pas dire que c'est un polythéisme. C'est un peu tout ça à la fois. Hein? Et puis ça peut même être moniste, c'est-à-dire un seul principe. Et parfois, il y a des dieux, des fois, il y a un dieu qui est mis vraiment en avant, et des fois, il n'y a pas de dieu. Ça peut être même parfois athée. Donc, vous voyez combien c'est. Ça dépasse nos catégories. Alors, d'abord, il faut comprendre que c'est né en Inde à une époque assez ancienne. Alors, je vais essayer de mettre une petite carte qui nous aidera. Voilà. Alors, je vais essayer de faire ça bien. Oui, partager l'écran. Voilà. Partager l'écran, parfait. Ah bon? Whiteboard. Ah non, c'est pas ça que je veux, moi.
Tableau, oui.
Alors, je voulais partager l'écran. Acrobat. Voilà. Partager l'écran. Voilà. Donc, voilà, c'est cette carte-là que je voulais vous montrer. Alors, vous connaissez l'omoplate, hein, qui forme le continent, le subcontinent indien. Et en fait, là, vous avez des noms de pays qui sont des pays, disons, d'une époque assez ancienne. Vous avez notamment ce qu'on appelle l'Aryavarta, qui se trouve à l'ouest de l'Inde, hein. Alors, on n'est pas très très loin du fleuve Sindhu. Et le fleuve Sindhu, en fait, c'est ça qui a donné son nom à Hindou. Et en fait, c'est le terme perse, Sindhu. Et en fait, le terme hindou vient de là. Hein, donc, c'est les Perses, en fait, qui ont donné ce nom. Et puis ensuite, évidemment, les Anglais se sont empressés de faire un isthme et c'est devenu hindouisme. Mais on ne peut pas parler d'hindouisme à la toute première période. La période, disons, ancienne, ce n'est pas vraiment de l'hindouisme. Hein.
Je suis sur quelle période là?
Là, on est dans une période, on va commencer à une période qui est environ vers 2000 ans avant Jésus-Christ, 1500. C'est une période où il y a des migrations indo-européennes qui viennent du nord et qui s'installent dans ce qu'on appelle l'Aryavarta, le pays des nobles. C'est pour ça qu'on parle des Aryas, hein, des indo-aryens. Arya veut dire noble, tout simplement en sanskrit. Et Varta, oui, c'est un pays. Voilà. Et donc, il y a des rivières, il y a le Sindhu, il y a la Sarasvati et la Yamuna. Et c'est entre ces trois rivières, en quelque sorte, que ces peuples nomades, qui étaient des peuples qui connaissaient le cheval, qui connaissaient la vache, qui étaient des pasteurs, se sont installés dans cette région. On a parlé d'invasion indo-aryenne, mais il vaudrait mieux parler de migration, parce qu'on n'a pas eu vraiment, les archéologues ne trouvent pas énormément de traces, en quelque sorte, de violents combats. On pense que ça s'est fait siècle après siècle, que c'est une progression, et qu'ils se sont installés dans le pays. Et ils ont donc une langue indo-européenne, ils s'installent dans un pays qui n'est pas vide, bien entendu, mais qui est remplis de populations qui sont des populations animistes, des populations d'ascètes, de forêts, probablement, qui étaient assez anciens. Le yoga, par exemple, est probablement né dans les régions indiennes avant même l'installation de ces populations indo-aryennes. Et c'est probablement donc, en fait, des connaissances qui sont autochtones. Et la plupart des peuples qui étaient là étaient des peuples dravidiens, c'est-à-dire des peuples de peau noire, et qui parlaient des langues qui n'étaient pas du tout indo-européennes, c'est des langues du type du tamoul, hein, actuel. Alors, donc, il y a beaucoup de langues, hein, aussi dans ce groupe. Et maintenant, tous ces peuples-là ont été refoulés progressivement vers le sud de l'Inde. Et maintenant, c'est donc le Tamil Nadu, c'est le Karnataka. C'est toutes les régions du sud de l'Inde qui sont en fait qui parlent en fait ces langues tamoules. Et tandis que les régions du nord, petit à petit, se sont brahmanisées et ont commencé à parler le sanskrit et des prakrites, qui sont des langues qui sont dérivées du sanskrit, mais qui sont moins nobles que le sanskrit, parce que le sanskrit, c'est la langue sacerdotale, d'une certaine manière. Et ce sont des langues, disons, plus populaires, et c'est ça qu'on appelle des prakrites. Prakrit veut dire donc des langues vernaculaires, tandis que sanskrit veut dire langue parfaite. Et c'est la langue vraiment sacrée par excellence. Donc ces peuples-là parlaient donc, pour les prêtres, ils parlaient le sanskrit, les nobles pouvaient parler éventuellement sanskrit aussi, et les autres parlaient prakrit. Alors, ça s'est passé donc vers 1500 avant Jésus-Christ, cette installation. Et ces peuples sont donc caractérisés comme les autres Indo-Européens par donc une répartition sociale avec des prêtres qu'on appelle des brahmanes, et qui sont donc chargés d'un aspect religieux, des nobles qui assurent en quelque sorte la défense, qui assurent l'aspect guerrier, hein, c'est ce qu'on appelle les kshatriyas, mais au début, ces termes-là n'existent pas, ils ne sont pas codifiés, c'est-à-dire qu'il y a ces répartitions, mais ce n'est pas encore finalisé. Hein. Mais disons qu'il y a quand même ces grandes catégories qu'on va appeler par la suite vraiment kshatriya, etc. Et puis, il y a les véchias. Les véchias, c'est ceux qui produisent la richesse. Donc, c'est les artisans, les commerçants, les agriculteurs, tous les gens qui travaillent et qui produisent du bien commun. Et puis, il y a les shudras, qui, eux, sont les serviteurs. Alors, les serviteurs, c'est quoi ? Ben, c'est tout simplement des populations généralement locales qui ont été intégrées, mais qui sont intégrés à un niveau inférieur et qui sont les serviteurs des trois castes supérieures. Hein? Voilà. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas intégrés et qu'on appelle des hors-castes ou par la suite, qu'on appellera des intouchables, mais bon, c'est beaucoup plus tard. Voilà. Donc, ce peuple qui s'installe, donc, il a une religion essentiellement, dans les premiers temps, sacrificielle. Donc, on fait des sacrifices. On fait des sacrifices d'animaux, on fait des sacrifices et on fait des offrandes également végétales, mais les offrandes végétales vont se développer beaucoup plus tard, beaucoup plus, et prendre la suite, en fait, des sacrifices animaux. Mais pour l'instant, disons que c'est vraiment une religion essentiellement sacrificielle. On est donc dans des époques quand même assez reculées. La langue, c'est le sanskrit védique, c'est-à-dire un sanskrit qui est encore assez primitif, c'est une langue archaïque, je dirais, par rapport au sanskrit classique. Mais enfin, si on connaît le sanskrit, on peut tout à fait lire à peu près les textes védiques, un peu de choses près. Mais les Védas, c'est vraiment les textes qui sont les textes fondateurs. Hein. Alors, petite chose avant de rentrer dans ces détails-là, il faut comprendre aussi une chose, c'est que ce que nous, on appelle l'Inde à l'heure actuelle, comme une espèce de chose qui est une entité, ça n'était pas vraiment une entité à l'époque, hein. C'était en fait des royaumes ou des principautés distinctes, et les gens n'avaient pas du tout la notion de former un grand pays qui s'appellerait l'Inde. Hein, ça, il faut bien le comprendre. On est dans une situation, il ne faut pas projeter la situation moderne sur une situation antique. Hein. Et l'Inde, en fait, qui c'est qui a fondé l'Inde? Ben, paradoxalement, c'est les Anglais. Avant que les Anglais donnent aux Indiens le sentiment qu'ils formaient une sorte de nation, il n'y avait pas cette idée-là. Hein. Et par exemple, alors Inde, évidemment, est dérivée de Sindhu et de Hindou, mais attention, évidemment, tous les Indiens ne sont pas hindous, hein, c'est clair. Alors, par exemple, Michel Angot nous dit, à l'époque qui nous occupe, à l'époque ancienne, donc personne de ces pays n'a jamais eu l'idée qu'il était indien sous ce nom ou un autre. L'expression « civilisation de l'Inde ancienne » vise en fait à fonder l'Inde présente. Pour ce faire, les Indiens d'aujourd'hui annexent au présent de l'Inde une admirable culture intellectuelle et monumentale et ils aiment s'imaginer en continuité avec elle. Mais en réalité, si vous voulez, il y a eu énormément de discontinuités depuis cette époque et c'est un peu comme si on reconstituait a posteriori une sorte d'Inde mythique sur laquelle on a fondé d'ailleurs le nationalisme indien. Donc, les premières cultures qu'on a avant que les Indo-Aryens s'installent vraiment dans cette région de l'Ouest, un peu comme une pointe de flèche dans l'Inde, les premières cultures, on a des cultures antérieures, si vous voulez. On a par exemple Mohenjo-Daro et puis Harappa. On parle de la culture de Harappa, c'est 2500 ans, 1800 avant Jésus-Christ. Et là, on a deux cités dont on a fait des fouilles. C'est ce qu'on appelle les cités de la vallée de l'Indus. Et ces cités étaient incroyablement développées au niveau urbanisme. Il y avait même des circulations d'eau chaude. On a retrouvé des canalisations, etc. Donc, c'était des gens qui avaient vraiment un urbanisme extrêmement développé à l'époque. Et on a retrouvé des objets qui venaient de Sumer. Donc, il y avait un commerce entre Sumer, donc la Mésopotamie, hein, et puis la vallée de l'Indus, où se trouvaient ces grandes cités. Et puis, ces cités ont disparu. Elles n'ont pas été détruites, mais elles ont été désertées. Et pourquoi? On ne sait pas totalement pourquoi, mais il y a eu des tremblements de terre qui ont fait que la rivière Sarasvati, dont on a le nom ici, eh ben en fait, si on la cherche en Inde, on la cherchera en vain, parce qu'il n'y a plus que son lit. Parce qu'en fait, le tremblement de terre a détruit en quelque sorte le lit de cette rivière qui s'est asséchée. Et comme cette rivière alimentait énormément cette région et permettait une agriculture tout à fait prospère, eh bien, en fait, la région autour de la Sarasvati s'est transformée en désert. Et c'est probablement une des raisons pour laquelle ces anciennes civilisations de l'Indus ont disparu. Alors, le problème, c'est qu'on a des écritures de l'Indus, mais on n'a jamais pu les déchiffrer pour le moment. Donc, on ne peut pas en savoir plus. On ne sait même pas quelles étaient leurs religions. On ne savait pas. On a trouvé des sceaux avec, quand même, on a vu un sceau. Avec un personnage qui est enfin jambes croisées, un peu comme un yogi, en posture de méditation, et avec une sorte de ramure. Et on pourrait imaginer que c'est peut-être l'ancêtre de Shiva, qui sera un dieu de l'hindouisme plus tard. Mais on n'en sait rien. Ce n'est pas sur une figure sans explication, disons, sans pouvoir déchiffrer le chiffre, qu'on peut, qu'on, sans pouvoir déchiffrer, disons, je veux dire, les écritures, on ne peut pas véritablement savoir de quoi il s'agissait. Donc, on en sait plus sur l'urbanisme de ces cités antiques que de leur mode de vie et de comment ils pensaient, comment ils priaient, etc. Voilà. Alors, donc, en fait, les premières choses qu'on a, c'est par les Védas et par les populations qui arrivent du Nord, qui sont des Indo-Européens, et qui se sont séparés d'un autre rameau d'Indo-Européens qui, eux, ont occupé la région qui va devenir la Perse. Hein? Donc, c'est deux rameaux, en fait, d'une migration. Et chacun va s'installer dans des régions différentes, et en fait, ils vont se distinguer petit à petit. Mais c'est vrai que l'ancien perse est proche du sanskrit. Alors, on peut dire que les brahmanes, donc, vont marquer cette première culture des Indo-Aryens qui s'installent dans le Nord-Ouest et ils vont cultiver donc une religion à base de sacrifices avec les textes qui sont les Védas. Alors qu'est-ce que c'est que ces Védas? Ce sont des textes, ce sont des hymnes essentiellement, en tout cas les principaux Védas, on parle des trois ou des quatre Védas, hein, ou alors on dit le Véda en considérant qu'il y a quatre collections dedans. Véda veut dire connaissance, hein, vide. C'est la racine vide en sanskrit. Et vous savez ce que ça a donné? Ça a donné videre. Ça a donné voir en français. Hein, c'est la même racine. Donc, ça veut dire que c'est une connaissance qui voit la réalité des choses. Hein? C'est en quelque sorte avoir une vision en quelque sorte de ce qui sous-tend le monde et de ce qui sous-tend l'existence. Hein? C'est ça que ça veut dire, Veda. Et les Védas, dans leur ensemble et leurs dépendances, hein, qui vont se développer, hein, sur des siècles et des siècles, forment ce qu'on appelle la Shruti. C'est-à-dire la révélation d'un corpus par l'écoute. C'est-à-dire, on voit bien que là, on était dans des cultures orales. Les Védas n'ont pas été mis par écrit tout de suite. Hein. Et les Védas n'ont été écrits que je dirais, probablement un bon millier d'années après que les Védas aient été connus. Ça veut dire qu'en fait, les gens de ces époques écrivaient très très peu. L'écriture, quand elle a été, enfin, ou tout simplement, l'écriture n'existait pas encore véritablement. Donc, en fait, c'était une transmission essentiellement orale. Donc, les gens apprenaient par cœur les textes, hein, et les transmettaient aux générations suivantes, d'une façon très exacte. Voyez? Chose qu'on serait bien incapable de faire à notre époque. Et on a donc cette shruti qui est en quelque sorte la révélation des textes par l'écoute. Et la shruti, c'est un des deux grands corpus actuellement de l'hindouisme. Mais à l'époque, on ne peut pas parler encore de l'hindouisme. Hein. Quand il y a cette période des brahmanes qui font des sacrifices dans ces peuples semi-nomades qui se sédentarisent progressivement, dans le premier millénaire avant Jésus-Christ, on ne peut pas dire encore que c'est de l'hindouisme. Non, on peut parler de védisme. C'est la période védique. Alors, les Védas eux-mêmes, très brièvement, il y a donc quatre collections. C'est les Samhitas, les collections. Il y a le Rig Veda, qui est le premier et qui est peut-être le plus important, c'est les strophes. Et le Rig Veda, ben, ce sont des hymnes qui sont adressés aux principaux dieux du Veda. Ces dieux sont des dieux essentiels, comme par exemple Indra, qui est le roi des dieux. Vayu, qui est le dieu du vent, Varuna, qui est le dieu de l'eau, Agni, qui est le dieu du feu. Alors, Agni a une importance très particulière parce que, comme on fait des sacrifices, eh bien, en fait, Agni, le feu, c'est le messager entre les hommes et les dieux, parce que la fumée du sacrifice va vers les dieux. Donc, Agni, en quelque sorte, représente vraiment le véhicule de communication avec les dieux. Il y a très peu de déités féminines à l'époque. Ça, c'est assez frappant. À part une déesse de l'aurore, c'est la seule dont on a des hymnes. Tous les hymnes sont destinés à des divinités masculines. Il y a également un couple de jumeaux, les Ashvins, hein, les cavaliers. Et ces dieux-là, ben en fait, c'est des dieux qui sont liés vraiment aux forces naturelles essentielles. Et en fait, quand on fait un sacrifice, on récite les textes. Hein? Donc, on fait le sacrifice, on sacrifie un animal, par exemple, et on récite les textes. Et en fait, c'est cette double activité, en quelque sorte, qui permet la communication avec le monde des dieux. Mais on dit même que le fait de dire le nom des dieux, c'est ça qui les rend plus vivants. C'est ça qui les fait devenir plus puissants. Et évidemment, en échange, ils nous accordent un certain nombre de bienfaits. C'est le donnant-donnant, en quelque sorte, de l'esprit sacrificiel. En même temps, dans le sacrifice, on donne quelque chose de soi. Alors, on donne quelque chose de soi, bien sûr, c'est pas de soi, on ne prend pas un morceau de son bras pour le sacrifier, mais on va quand même donner des éléments de son troupeau, etc. Et c'est l'idée, en fait, qu'on va se départir, en quelque sorte, de quelque chose qui nous appartient, de façon à l'offrir aux dieux et de manière à, créer un échange d'énergie entre les énergies divines et les énergies humaines, de façon à ce que nous ayons une harmonisation dans le cosmos et dans la vie humaine. Hein, c'est ça fondamentalement l'idée. Donc, le Rig Veda, ce sont les grands hymnes qui sont destinés aux grands sacrifices collectifs. Ils ne sont pas tant liés que ça à la religion domestique. Ils sont plus liés vraiment au collectif. Et à chaque fois qu'il y a un hymne à un dieu, le dieu auquel on s'adresse est traité comme étant le plus important. Donc, il y a déjà une tendance dans ce polythéisme à avoir des aspects énothéistes. Énothéiste, vous savez, c'est quand on en choisit un parmi tant. Donc, on ne nie pas l'existence des autres, mais c'est celui-là particulièrement auquel on va s'adresser. Donc, on a déjà cette tendance-là, même à cette époque. Et il y a également, à la fin du Rig Veda, un mythe dans lequel l'archétype de l'homme, le Purusha. Hein, c'est en quelque sorte une sorte de géant humain, est démembré par les autres dieux pour constituer les différentes parties de l'univers. Et puis, on dit que sa tête, ceux qui viennent de sa tête, eh ben, ce sont les brahmanes. Ceux qui viennent de son buste, ce sont les guerriers. Ceux qui viennent du bas de son corps, ce sont les shudras, non, les vaishyas, pardon. Et puis, les pieds, ceux qui sortent des pieds, ben, ce sont les shudras, c'est-à-dire les serviteurs. Donc, c'est une tentative cosmologique, en quelque sorte, de justifier l'ordre social qui va caractériser, en fait, cette religion par la suite. Il y a le Yajurveda, qui forme la deuxième Samhita, la seconde collection. Et là, c'est plutôt des... Alors, on retrouve des strophes, des choses qui sont déjà dans le Rig Veda, mais c'est quelque chose qui décrit certains aspects rituels, plus particulièrement des gloses, par rapport, disons, aux strophes du Rig Veda qui forment vraiment le corpus essentiel. On trouve également, c'est un Veda qui s'adresse plus aux exécutants, aux prêtres sacrificateurs. Le Sama Veda, lui, il dit comment il faut scander le sanskrit, parce que le sanskrit est une langue qui doit se scander. Donc c'est vraiment un traité de scansion et des mélodies. C'est le savoir des mélodies en quelque sorte. Sama Veda, Samhita. Et ça repart sur les différentes strophes, évidemment, du premier Veda, mais en les accompagnant, justement, du rythme et de la musique qui doit accompagner. Alors, c'est noté par des choses qui sont, évidemment, ce n'est pas des notes de musique comme actuellement, hein, dans le système occidental, mais ce sont des variations que l'on voit sur les feuilles, en fait, et qui indiquent, en fait, comment moduler le chant. Et le dernier des Vedas, c'est l'Atharva Veda. Et l'Atharva Veda, c'est un savoir un petit peu plus obscur. C'est-à-dire que c'est un enseignement qu'on ne donne pas à tout le monde. Ça se donne d'ailleurs en forêt, généralement. Ça va donner naissance à ce qu'on appelle les aranyakas, c'est-à-dire des textes de forêt, parce que c'est donné à l'écart, pas en société. Et ce sont des savoirs qui sont liés à des rites vraiment pratiques. Donc, on va avoir des rites médicaux pour guérir des maladies, mais également des rites d'envoûtement, des choses, des charmes, pour gagner l'amour d'une femme, pour la longévité, pour se protéger de la foudre, pour éviter les morsures de serpents, etc. Donc, c'est vraiment la partie beaucoup plus grimoire, en quelque sorte, des Védas qui se trouve dans ce quatrième Véda. Et d'ailleurs, les brahmanes les plus orthodoxes ne l'acceptent pas véritablement comme un Veda comme les autres. Ils considèrent que les Védas proprement dit, c'est les trois premiers, et que le quatrième, c'est un ajout. D'ailleurs, il est plus récent, et ils le considèrent un peu comme un côté un peu grimoire, quoi. Hein, voilà. Et donc... à partir de ce premier corpus, il y a un deuxième corpus, c'est les brahmanas. Alors là, ce sont des traités vraiment qui expliquent le comment du pourquoi du sacrifice. Alors eux, ils expliquent tout l'aspect technique. Hein. C'est assez sec en général comme prose, c'est pas très drôle à lire. Et ça, par exemple, ça n'a pas été vraiment traduit, parce que c'est franchement relativement chiant à traduire. Et après, on a les aranyakas, qui sont vraiment les traités forestiers, qui donc prolongent les brahmanas, mais qui sont des aspects d'enseignement secret et qui sont intéressants parce qu'ils sont un peu plus ésotériques, peut-être moins cuisine de sorcier que l'Atharva Veda, et plus liés à une spéculation, disons, d'ordre religieux. Et c'est dans ces traités d'Aranyaka, des traités forestiers, qu'on va voir apparaître une littérature qu'on va appeler les Upanishads, qui seront assez importantes par la suite. Voilà, donc ça, c'est vraiment le corpus védique. Hein. C'est vraiment un corpus ancien, mais dont le Rig Veda est certainement la partie la plus ancienne. Alors, les dieux védiques, ben, il y en a quand même un bon petit paquet. Disons que, grosso modo, les dieux, ça se dit Deva en sanskrit. Alors, vous voyez, ce n'est pas difficile hein, de deviner que Deva, ça veut dire Dieu, hein, parce que c'est la même racine qu'en français. C'est la même racine qu'en grec, en théos. C'est la même racine que, comment dire, deus, hein, en latin, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, le mot Dieu? Eh bien, si on remonte à cette racine indo-européenne, ça vient d'une racine div qui veut dire briller. Et c'est quelque chose de l'ordre du ciel brillant, du ciel lumineux. Et je vous signale que ça a donné également en français le nom des jours de la semaine. Dit, hein, samedi, lundi, mardi, mercredi. Vous savez que ce sont en fait, c'est, en fait on a rien changé à un aspect, je dirais, polythéiste. Hein. Les 7 jours de la semaine en Occident, comme en Orient et sur tout l'ancien continent, sont tout simplement les 7 jours consacrés aux 7 planètes, qui sont des dieux. Hein? Donc le dimanche, bon, bah, il a perdu un peu sa signification en français, mais c'est Sunday, c'est le jour du soleil. Bon. Et puis lundi, bah, c'est le jour de la Lune, mardi, c'est le jour de Mars, mercredi, c'est le jour de Mercure, jeudi, c'est Jupiter, vendredi, c'est Vénus, et samedi, c'est le jour de Saturne. Curieusement, les gens se marient le samedi. C'est le meilleur, c'est le plus mauvais jour pour se marier, parce que Saturne détruit les enfants. Et c'est celui qui stérilise. Donc, si vous avez encore des projets de mariage dans votre vie, évitez le samedi. Ça sera mieux.
Donc
Parce
c'est
que c'est
marrant,
pas la
je fais
seule
des
énergie.
divorces.
Pardon?
C'est marrant, je fais des divorces qui continuent à se marier le samedi, c'est très bien.
Et bah, oui, pour vous, c'est bon. Voilà. Mais disons que voilà, cette semaine-là, elle est déjà établie hein, à l'époque et elle est partout. Donc en fait, on a ces dieux qui sont un peu des dieux effectivement cosmiques, mais en même temps qui peuvent représenter des éléments aussi, les éléments naturels. Hein. Et il faut savoir une chose, c'est que les dieux védiques sont un peu comme de la pâte à modeler. C'est-à-dire que vous avez dans certains hymnes, on leur donne des noms et puis des fois ils changent de nom et ils prennent le nom d'autres dieux. Et alors on se dit, mais c'est pas possible, alors qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je croyais que ce nom-là était attribué à tel dieu et puis là on le retrouve pour tel autre dieu. Bah oui, mais parfois les dieux se transforment les uns dans les autres. Hein? Et toujours Michel Angot, il dit, les dieux du Véda sont comme élastiques. Il y a une sorte de pâte à dieux que l'on divise en autant d'entités nécessaires. Et chacun des dieux, ainsi fait, porte un nom personnel ou collectif. Comme il n'y a pas de doctrine unique sur les dieux, d'autres textes védiques, d'autres parties du même texte parfois, présentent des dieux ayant une solide existence. Et puis d'autres fois, il disparaît et puis c'est un autre dieu qui devient plus important, etc. Donc c'est très souple, c'est très plastique. Vous voyez? Il y a comme une sorte de matière divine dont on peut faire des dieux. Hein? Et par exemple, on a ce passage dans le Rig Veda, Ô Agni, donc le dieu du feu, tu es Varuna. Or, Varuna, c'est le dieu de l'eau. Hein? Alors, Ô Agni, tu es Varuna quand tu nais, tu es Mitra quand on t'a enflammé, quand t'as enflammé, lorsqu'on t'a enflammé. En toi, ô fils de la force, résident tous les dieux. Tu es Indra pour le mortel qui te sert. Tu es Ariaman, alors que, ô maître de toi-même, tu portes en toi l'essence cachée des jeunes filles. Voilà, donc c'est des. Comme Mitra le bien établi, oindre hein, de vache quand tu fais régner la concorde entre les époux. Voilà, donc c'est des hymnes qui sont assez versatiles en quelque sorte. On a beaucoup de mal à savoir exactement s'il y a une théorisation ou pas là-dedans. Ce sont des hymnes poétiques. Hein. Donc les hommes ont besoin des dieux qu'ils prient, comme les dieux ont besoin des prières qui leur sont adressées par les hommes. On dit que si les dieux ne sont pas suffisamment priés, quelque part, on les oublie et ils disparaissent. Et, quand on prononce le nom d'un dieu, on renforce son existence, sa puissance, et alors il peut faire profiter les hommes de ses bienfaits. Alors au départ, les dieux sont des fois aussi appelés Asura, qui veut dire puissant. Et puis petit à petit, le mot Asura va plutôt s'appliquer à des antagonistes des dieux, c'est-à-dire des sortes d'anti-dieux qui s'opposent aux dieux et qui vont petit à petit devenir, dans l'hindouisme beaucoup plus tardif, des démons. Mais en réalité, le terme au départ désignait les dieux. Et alors, très curieusement, en Perse, ils ont inversé les choses, c'est-à-dire que, alors qu'en Inde, les dieux sont des devas, et puis que les asuras deviennent en fait des forces antagonistes aux dieux, qui sont plutôt des démons, eh bien en fait, en Perse, les daivas sont les démons et les ahuras sont les dieux. Il y a une inversion des deux termes.
Voilà. Philippe, juste pour dire qu'il te reste à peu près 20 minutes.
Oula !
Bah oui.
Ah oui, d'accord. Oui, oui. Ah oui, enfin, peut-être un peu plus quand même. Bon, attends. Bon, alors, oui, ça, c'est la période védique. Il faut savoir que les sacrifices peuvent être, les sacrifices collectifs peuvent être extrêmement compliqués. Il y a des sacrifices qui demandent des préparations pendant des mois. Et par exemple, le sacrifice du cheval, qui était un sacrifice royal, était extrêmement complexe et se préparait sur un an. Et en fait, c'est vraiment, il y a vraiment des rituels extrêmement complexes dans cette religion. Alors, c'est une religion purement sacrificielle à son départ. Et c'est quand, en fait, les brahmanes vont être en contact par les guerriers qui vont guerroyer vers l'est de l'Inde, vont être en contact beaucoup plus avec des populations qui ne sont pas forcément indo-aryennes. Certaines le sont, mais d'autres ne le sont pas, et qui ont d'autres visions du monde, que là, en fait, les guerriers, les futurs kshatriyas, vont recueillir des idées nouvelles de ces populations. Alors là, par exemple, on a le Grand Magadha, qui est à l'est. Le Grand Magadha, c'est une grande région où sont nées deux autres religions. À l'époque védique, petit à petit, il y a eu déjà le jaïnisme qui est né. On pense que le jaïnisme a dû naître vers le 8 ou 10e siècle avant Jésus-Christ. Et puis, au 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est le bouddhisme qui va apparaître. Et en fait, les guerriers qui viennent de l'Aryavarta et qui vont dans ces pays-là vont rencontrer ces populations et vont, en quelque sorte, s'imprégner des idées de ces autres religions. Et ça va avoir de l'importance parce que ces religions, le jaïnisme et le bouddhisme, à un moment donné, quand l'Inde va... quand une dynastie va apparaître, qui est la dynastie des Mauryas, les Mauryas vont apparaître, ils vont privilégier ces deux religions, à tel point que quand les empereurs Mauryas vont conquérir une bonne partie de l'Inde, en fait, les Brahmanes sont en mauvaise posture. Et pour rebondir, ils vont avoir la bonne idée de récupérer les idées de ces religions et de les intégrer à la leur. Et ils vont gagner de cette manière-là, en quelque sorte, en popularité, et ils vont pouvoir comme ça rebondir. Et c'est par l'imprégnation d'un certain nombre d'idées qui viennent des religions de l'Est que, petit à petit, l'ancien védisme va se transformer, mais sur des siècles, et va devenir petit à petit ce qu'on va appeler le brahmanisme moyen, et ensuite, beaucoup plus tard, l'hindouisme. Mais il va y avoir des changements considérables. Par exemple, dans les Védas, on ne parle pas vraiment de réincarnation. On parle plutôt de svarga, de cieux divins. Mais on ne parle pas de réincarnation. Et on ne parle pas non plus de ce qu'on appelle le karma, c'est-à-dire en fait l'action qui porte un effet sur l'individu qui l'a produite. Donc, ces notions-là, elles viennent des religions de l'Est. Et elles vont passer, en quelque sorte, dans l'hindouisme, enfin, dans le brahmanisme, à travers quoi, ben justement, la littérature des Upanishads. Les Upanishads, qui sont des une littérature, en quelque sorte, il y a, disons, 14 Upanishads essentielles, anciennes, où on voit l'opération de véhicule, enfin, on véhicule ces idées, en quelque sorte, et on les fait petit à petit devenir brahmaniques. Et c'est ça qui va vraiment transformer petit à petit cette antique religion sacrificielle. Par exemple, un des éléments qui va être frappant dans les Upanishads, c'est que c'est une religion qui s'intériorise. On va commencer à parler du sacrifice intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, ça va rejoindre des préoccupations du yoga. Et on va considérer, par exemple, que le feu est à l'intérieur du corps, dans les canaux subtils, avec les souffles subtils, etc. Et qu'on va pouvoir purifier, en quelque sorte, le sacrifice va se faire intérieurement. Et donc, il y a une intériorisation de la religion. Et puis, étant donné qu'il y a le cycle des renaissances perpétuelles dans ce qu'on appelle le samsara, qui est rentré dans les mœurs brahmaniques à partir des autres religions, on va chercher une libération de ce cycle de renaissance, parce qu'en fait, les renaissances ne peuvent amener qu'à renaître dans des existences qui sont toujours empreintes de souffrance. Hein, c'est le sarvam dukkham, tout est souffrance. Et ce sarvam dukkham va donc amener cette religion à s'orienter vers la moksha, c'est-à-dire la libération. On cherche à se libérer des conditionnements du samsara. Voyez, et c'est ça qui va devenir vraiment le but de la religion. Donc, ce n'est plus seulement d'entretenir un bon rapport pour que les choses soient prospères et que la vie soit, disons, harmonieuse sur Terre parce qu'on honore les dieux. On va plutôt même commencer à considérer que les dieux du védisme ne sont plus très à la mode. Et petit à petit, ils vont être remplacés par d'autres dieux. Parce que les dieux du védisme sont liés au sacrifice. Or, le sacrifice étant devenu intériorisé, ces dieux perdent de l'importance. Donc, Indra, par exemple, va devenir un dieu qui, dans les épopées, par exemple, ou alors, et surtout, encore que dans les épopées comme le Mahabharata ou le Ramayana, Indra a encore une certaine importance parce que c'est celui qui lutte contre les forces démoniaques des Asuras. Mais en même temps, on voit déjà qu'il perd un peu de panache. Il est moins important. Et puis, il va petit à petit devenir même un dieu un peu ridicule parce qu'il se croit vraiment le roi des dieux, mais finalement, c'est un orgueilleux. Et Agni, lui, garde son importance parce que c'est le feu et que le feu est toujours important. Dans les populations indo-européennes, le feu est capital, hein, dans les religions indo-européennes. On a la même chose même à Rome avec les Vestales. Hein. Donc, le feu sacré, c'est un truc qu'on entretient. C'est pareil en Perse également, etc. Donc, lui va garder une certaine importance. Mais les autres dieux, Varuna, Mitra, etc., vont vraiment devenir des dieux secondaires. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, c'est des nouveaux dieux qui vont prendre la prédominance, essentiellement trois dieux qui, petit à petit, vont s'installer, qui sont Brahma, Vishnu et Shiva. Alors, on ne peut pas dire qu'ils sont totalement absents des Védas, mais dans les Védas, ce sont des dieux très secondaires. Et curieusement, là, ils vont prendre une grande importance, et essentiellement, pas tant Brahma que ça, parce que Brahma, c'est le créateur, enfin, c'est l'ordonnateur du chaos qui crée en quelque sorte l'univers tel qu'on connaît, mais comme cet univers est maintenant considéré comme un cercle d'existence douloureuse, on le rend un peu responsable finalement de notre souffrance sur Terre. Donc, Brahma, par exemple, n'a qu'un grand sanctuaire en Inde, alors qu'il y en a des milliers pour les deux autres dieux. Et Vishnu va être un dieu qui va être un dieu qui va avoir une grande importance parce qu'il va avoir des émanations qu'on appelle des avatars. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne va pas sur Terre, quand il y a des déséquilibres, quand les démons menacent la vie, quand il y a des grandes perturbations, eh bien, Vishnu envoie une émanation sur Terre pour rétablir l'équilibre cosmique. Et c'est ce qu'on appelle des avatars. Alors, les deux grands avatars qui sont très connus, c'est Rama, qui fait l'objet de toute une épopée qui s'appelle le Ramayana. Et puis l'autre, c'est Krishna, qui veut dire le noir. Et Krishna, ça va être le héros de la deuxième épopée qui est la plus importante, hein, qu'on appelle le Mahabharata, qui est certainement le poème épique le plus long au monde. Ça représente, je sais pas, l'équivalent de 15 ou 20, oui, d'une quinzaine de Bibles. Hein, c'est énorme. Donc, en fait, le Mahabharata, il y a eu des tentatives de le traduire entièrement en français, mais non. On a un certain nombre de chapitres et puis le reste, c'est résumé. Hein. On n'arrive pas vraiment à traduire tout. Bon, c'est pour vous dire, c'est une immense épopée et où Krishna va prendre une grande importance. Et alors, c'est curieux parce qu'en fait, il est le cocher d'un guerrier qui s'appelle Arjuna et qui est le héros, en quelque sorte, disons, le héros ordinaire, en fait, de l'épopée. Mais on en profite parce que Arjuna a des problèmes de se lancer dans une guerre avec une autre population parce qu'il y a tous ses cousins qui sont dans les camps, dans le clan ennemi. Et il ne veut pas se battre. Et Krishna va lui donner un enseignement sur l'action juste. Et il va lui expliquer qu'en fait, si l'action est menée d'une façon totalement désintéressée, avec une motivation qui n'est le fait simplement d'effectuer son devoir de caste, hein, comme il est un guerrier, bah, il doit faire la guerre, hein, c'est son devoir, parce qu'il est né pour ça. Et en même temps, que s'il n'est pas attaché au but de l'action, eh bien, son action est pure. Alors, c'est un peu dangereux, hein, comme enseignement, d'une certaine manière, parce que ça peut justifier beaucoup de choses. Et c'est l'enseignement d'une partie du Mahabharata qui est très connue, qui s'appelle la Bhagavad Gita. Alors, la Bhagavad Gita, ce n'est pas qu'une justification, en quelque sorte, pour le guerrier de trucider l'ennemi. Hein. Ce n'est pas ça seulement, bien sûr. On peut le lire à différents niveaux. On peut le lire à un niveau beaucoup plus, intériorisé. Hein, ça, c'est clair. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'il est lu la plupart du temps. Mais on voit bien que la Bhagavad Gita, quand elle apparaît, c'est aussi une volonté d'utiliser des notions qui viennent, par exemple, du bouddhisme, par exemple, l'action, le karma. Il est repris à la façon un peu bouddhiste, mais on le transforme pour justifier le système des castes. Et ça, les brahmanes étaient très forts pour ça. Ils étaient capables vraiment de, comme ils étaient les grammairiens, donc ceux qui pouvaient écrire, eh bien, c'est eux qui disaient ce qui était et ce qui n'était pas. Donc, avec leur littérature, ils orientaient en quelque sorte la vie. Ils avaient compris que quand on est un bon grammairien, ben, on a le pouvoir. Vous voyez ? Ça, c'est très intéressant. Avant d'être des prêtres, enfin, avant, c'était des prêtres sacrificateurs, mais maintenant, c'est essentiellement des gens qui ont une capacité d'écriture avec le sanskrit qui leur permet de dire les choses. Et ce qui est curieux, c'est que les brahmanes ne se sont jamais concertés. Ils n'ont jamais fait de concile. Il n'y a pas d'organisation hiérarchique entre les brahmanes. Et cependant, époque après époque, on s'aperçoit que les écrits qui apparaissent ont une relative cohérence d'époque. Ça, c'est vraiment un mystère un petit peu. Parce que comment peuvent-ils écrire dans le même type d'esprit sans se concerter? Mais c'est un fait. Et alors, petit à petit, ils se sont rendus compte qu'avec les autres religions, il y avait une concurrence assez importante et qu'en plus, il y a l'islam qui commençait à pointer son nez. Et là, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas continuer à cultiver une religion qui était réservée aux brahmanes et aux kshatriyas essentiellement. Les véchias avaient le droit à des récitations de Vedas, mais c'était guère plus. Les shudras n'avaient pas le droit du tout à la religion. Donc, il n'y avait que les brahmanes qui étaient éduqués et les kshatriyas. Les guerriers. Et ils se sont rendus compte que s'ils continuaient comme ça, avoir une religion très élitiste, ils allaient disparaître. Et donc, les épopées d'une part, et puis les Puranas, qui sont des écrits mythologiques, ont servi à populariser, en quelque sorte, vers les classes populaires, la dévotion aux dieux. Et c'est comme ça que petit à petit, l'hindouisme va émerger. Mais si on parle de l'hindouisme, il faut comprendre que l'hindouisme n'héberge en réalité qu'à partir du 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Donc, vous voyez, c'est quand même une maturation qui est très, très lente. Et là, à ce moment-là, effectivement, on devient… Alors, quand ça devient l'hindouisme, il y a une forme très dévotionnelle de l'hindouisme, hein, ce qu'on appelle la bhakti, la dévotion, la foi, la dévotion à un dieu. On choisit un dieu et on lui accorde toute sa dévotion. Et les autres, bien sûr, sont quand même honorés, mais secondairement. Donc, c'est un énothéisme. Et puis, il y a aussi une approche beaucoup plus intériorisée à travers le yoga. Alors, il va y avoir différentes sectes qui vont se constituer, enfin, des sectes, pas au sens péjoratif, hein, des branches, en quelque sorte, des branches d'écoles, des écoles, on peut dire, qui vont se diversifier en fonction des dieux préférés. Donc, il va y avoir les Vishnouites et puis il va y avoir les Shivaïtes. Et les Shivaïtes vont avoir une prédilection pour les yogas et pour l'ascèse, tandis que les Vishnouites vont avoir une prédilection pour le côté dévotionnel, pour la bhakti. Alors, évidemment, ce que je vous dis, c'est à la louche. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais les Shivaïtes, par exemple, Shiva, c'est le maître du yoga, c'est le dieu du yoga. Et c'est vrai que les Shivaïtes, c'est d'eux que vont apparaître les principales sectes également tantriques, qui vont donc travailler sur la transmutation des énergies du corps et de l'esprit. Et on va avoir donc tout un développement qui va aller jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, le développement de différentes écoles shivaïtes ou vishnouïtes n'a jamais cessé depuis. Et on en a des centaines de branches. Et alors, on peut avoir, par exemple, si on prend par exemple des shivaïtes, bon, les shivaïtes, normalement, ils sont censés adorer essentiellement Shiva. Shiva, vous savez, on dit souvent, mais c'est le dieu de la destruction. Ben non, ce n'est pas que le dieu de la destruction. S'il est considéré comme le dieu principal, il est à la fois avec une fonction créatrice, une fonction de conservation et une fonction de destruction. Et c'est ce qui est représenté par la danse de Shiva. Quand Shiva danse, il entame une danse qui est à la fois une danse de développement de la création du monde et par la suite, par un autre mouvement, il résorbe le monde. Donc, en fait, il représente l'énergie cosmique, voyez, dans toutes ses constructions et ses destructions. Et Shiva est un dieu assez extraordinaire. Il est très ambigu. Il a des côtés très, très favorables, très, très compatissants, très bienveillants, et puis des côtés extrêmement courroucés, par ailleurs. On l'appelle Bhairava, le terrifiant, aussi. Donc, il a plein de noms. Et Shiva est vraiment une figure très intéressante. On l'a souvent rapproché de Dionysos, qui est un dieu assez ambigu également dans la Grèce antique. Shiva, en tout cas, il y a des dieux qui sont autour aussi. Par exemple, il y a Parvati qui est son épouse, Parvati. Et Parvati, on raconte par exemple une légende, c'est que Parvati prend son bain et elle est tout le temps dérangée dans son bain. Et alors, à un moment donné, elle prend de la mousse de son bain et elle fabrique un enfant avec cette mousse et elle intime l'ordre de cet enfant qu'elle a créé de se poster à la porte de sa demeure et d'empêcher quiconque de venir la perturber quand elle est dans son bain. Il se trouve qu'il fait très bien son boulot, ce jeune garçon, sauf qu'il le fait tellement bien que quand Shiva se pointe, il ne le laisse pas rentrer. Et Shiva, bon, il est un peu patient au début, et puis ses impatiences sont connues également. Et à un moment donné, il s'énerve, et il prend son trident et il lui tranche la tête. Et Parvati, donc, sort de son bain, voit que sa création, qui était ce jeune garçon, a eu la tête tranchée, donc elle se met à engueuler Shiva, donc une belle scène de ménage, et Shiva promet, il envoie toutes les créatures qu'il contrôle, qui sont les contrôles, enfin tous les êtres de la nature, et ils envoient chercher un animal en forêt. Et il a dit, le premier que vous rencontrez, vous prenez sa tête, et c'est un éléphant. Et du coup, on va mettre la tête de l'éléphant sur le jeune garçon qui va reprendre vie, on lui redonne souffle de vie, et il devient Ganesh. Et Ganesh, donc, est considéré comme le fils adoptif de Shiva. Mais il y a beaucoup, beaucoup de Shivaïtes qui adorent Ganesh plus que Shiva. Vous voyez ? Donc, ça peut être extrêmement variable. Il y a beaucoup de formes possibles et imaginables, en quelque sorte. Et ce qui est assez… Alors, à la fois, vous avez un ordre social qui est assez rigide. Vous voyez ? Parce que quand vous naissez dans la bonne case, tant mieux pour vous. Mais si vous naissez dans la mauvaise case, c'est pour la vie. Donc, il n'y a pas vraiment d'ascension sociale possible dans le système des castes. Il y a même plutôt une dégringolade possible. Parce que si vous vous mariez avec la mauvaise personne qui n'est pas de la bonne caste, vos enfants dégringolent de caste. Et il y a toute une règle sur le mariage qui est extrêmement complexe. Donc, ce n'est pas très facile, le système des castes, parce qu'il faut vraiment assumer son rôle, quoi. Et si vous ne l'assumez pas, vous avez des bricoles qui vous arrivent. Et vous vous dégradez dans la société, hein, dans votre niveau de, au niveau de la société. Donc, il y a ce côté qui est assez rigide. Mais d'un autre côté, du point de vue spirituel, c'est d'une souplesse hallucinante. Vous choisissez le Dieu que vous voulez. Alors souvent, c'est un Dieu familial. C'est parce que par affinité, la famille a toujours été vishnouite. Mais quelqu'un qui est issu d'une famille vishnouite peut devenir shivaïte. Il n'y a aucun problème. Personne ne le lui reprochera. Vous voyez ? Donc, c'est quand même c'est une religion à ce niveau-là qui est assez, assez sympa, quoi. Et après tout, une fois qu'on a un dieu, en fait, on le traite comme un dieu absolu. Et on lui attribue on lui donne des attributs transcendants. Voyez ? Et donc, à ce moment-là, il est Dieu, tout simplement. Voilà. Alors, il y a ces aspects-là. Alors, il y a un dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est que comment on fait, puisque une religion était sacrificielle avec des prêtres, et que les prêtres n'avaient qu'une une obsession quelque part, c'est de continuer à devenir prêtre de père en fils. Donc, il fallait éduquer les enfants pour qu'ils connaissent le sanskrit et qu'ils soient suffisamment savants pour devenir eux-mêmes des brahmanes. Bon. Mais à un moment donné, la religion devient une religion de libération. Et pour se libérer, il faut pratiquer les yogas. Il faut pratiquer l'ascèse. Mais si vous quittez trop vite le monde humain pour rentrer dans l'ascèse, il n'y a plus personne pour éduquer les enfants. Donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme système ? Le système des quatre stades de l'existence, qu'on appelle les ashrams. Et ça consiste à considérer qu'on doit d'abord recevoir, en tant que brahman ou kshatriya, on doit recevoir l'initiation. C'est vers l'âge de 8, 10 à 12 ans. Et l'initiation vous fait rentrer dans la caste. Donc, en fait, c'est une deuxième naissance. C'est pour ça qu'on dit que les brahmanes sont des deux fois nés. Et une fois que vous êtes initié, vous vous mettez au service d'un brahman. Et ça devient votre maître. Et donc, de l'âge de 10 ou 12 ans jusqu'à l'âge de 20 ans, vous êtes au service d'un maître. Vous le servez, vous lui faites ses repas. Vous vous occupez de lui et lui, il vous enseigne les Védas. Vous voyez, c'est le deal. Et vous devez observer la chasteté. Ça tombe mal, hein, c'est en pleine adolescence, mais c'est comme ça. Et puis, à 20 ans, vous êtes mûr pour vous marier. Et donc, vous rentrez dans la vie sociale. Et vous devez vous marier avec quelqu'un de la caste adéquate. Donc, il y a des règles très précises. Et vous devez faire des enfants. Et quand il faut avoir des enfants mâles, évidemment. Et quand vous avez des enfants, vous êtes toujours à attendre parce que vous devez continuer vos devoirs, parce que vous devez éduquer vos enfants. Mais c'est quand les petits-enfants, et qu'il y a parmi les petits-enfants un enfant mâle qui apparaît dans la famille, là vous pouvez relax, vous lâcher tout, vous pouvez abandonner même votre caste, vous pouvez redonner tous vos biens à vos enfants et petits-enfants, et vous êtes libre, et vous partez sur les routes pour vous consacrer justement à la voie spirituelle. Vous n'avez plus aucun devoir autre que religieux que vous vous donnez vous-même, et c'est ce qu'on appelle les sannyasines, voyez, qui partent sur les routes tranquillement et qui terminent leur vie dans l'absorption méditative d'un yogi. Voilà le système qui permet d'équilibrer entre la société et l'aspect religieux proprement dit ou l'aspect spirituel proprement dit. Voilà. C'est vraiment résumé très grosso modo. Hein. Mais voilà un peu